Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. Nous avions parlé dans la dernière émission de l'IA au sein de la justice dans les pays européens. On continue dans cette voie en se penchant aujourd'hui sur un autre sujet dont l'Europe s'est saisie, la sécurisation et la régulation de l'espace numérique. Dans le contexte où en France, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique est en cours d'examen, on ne parle finalement que peu du texte qui est en partie au moins à l'origine de tout cela, le Digital Services Act, dit DSA, ou règlement sur les services numériques. J'ai pour en parler aujourd'hui la chance de recevoir un spécialiste de cette question, Benoît Loutrel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du Collège de l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique, l'ARCOM, où notamment vous présidez le groupe de travail Supervision des plateformes en ligne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de votre invitation.
Comment décrirais-tu ce qu'est le cercle à, disons, ta grand-mère ?
C'est rendre le chaos du web plus élégant.
En rafale, Paul ou John ?
D'abord Paul, ensuite John.
Mario ou Sonic ?
D'abord Sonic, ensuite Mario.
Les besoins de la société ou les besoins individuels ?
Ils devraient être les mêmes.
Qu'est-ce qui t'effraie le plus ?
Un potentiel inexploité.
Je crois sincèrement en la perfection humaine. Quand on fait de notre mieux, les possibilités sont infinies. Au cercle, il n'y a aucun problème que nous ne pouvons résoudre. On peut guérir toutes les maladies et vaincre la famine. Sans secret, en partageant le savoir et l'information, nous pouvons enfin atteindre notre plein potentiel. Membres du cercle, aimez-vous partager ?
Partager, c'est protéger !
Nous allons tout voir. Si une chose se produit, nous le saurons. Imaginez les conséquences sur les droits de l'homme. Nous devons assumer nos responsabilités.
C'est quoi ça ?
Le cercle a le pouvoir de tout changer.
Ce sont nos mensonges qui nous causent des problèmes. On se soucie de vos proches. Ce qui est important pour vous l'est aussi pour nous. Parce que savoir est une bonne chose. Mais tout savoir, c'est mieux.
La méfiance à l'égard des grands groupes du numérique et de l'Internet s'est accrue depuis quelques années. Le film Circle, dont vous venez d'entendre la bande-annonce, en offre une représentation, certes un peu extrême et caricaturale, mais qui invite à la réflexion sur le poids des réseaux sociaux et de certains médias dans la société et dans la sphère privée, ainsi que sur leurs limites éthiques. Terreau de promesses à la création d'Internet, l'espace numérique se perçoit comme un espace de liberté, où chacun peut communiquer et s'épanouir. Malgré tout, cette oasis virtuelle, référence symbolique ici au film Ready Player One évidemment, s'est révélée être aussi le lieu de nombreux dangers lorsque les mésusages du numérique prennent le dessus. Exacerbation de la haine en ligne, manipulation de l'information, atteinte à la vie privée mais aussi à la souveraineté des États, on assiste ces dernières années à une multiplication des contenus illicites et préjudiciables conduisant à s'interroger sur la régulation de cet espace numérique. Cette régulation, du moins ces tentatives, n'y est pourtant pas nouvelle. En revanche, elle s'affine et se remodèle en fonction des finalités poursuivies. Car désormais, au-delà de considérations économiques et concurrentielles, pèse lourdement dans la balance la volonté d'améliorer la protection des droits fondamentaux. Un cadre légal au marché européen des services en ligne avait été donné par la directive sur le commerce électronique en 2000, mais depuis lors, cet encadrement a été confronté à des limites intrinsèques dont nous allons parler avec notre invité. Les technologies, les modèles commerciaux, les services numériques ont évolué de façon fulgurante, imposant une mise à jour de la régulation conçue pour l'adapter à de nouvelles situations. Ainsi, un paquet législatif relatif aux services numériques a été présenté par la Commission européenne en décembre 2020, menant l'an dernier à l'adoption par le Conseil et le Parlement européen de deux textes, la législation sur les marchés numériques, le DMA, et la législation sur les services numériques, le DSA, sur lequel nous nous pencherons aujourd'hui. On fait donc le point dans un instant avec notre invité.
Ah.
On vient d'entendre la célèbre musique d'Ennio Morricone, bande originale du film Le Bon, la Brute et le Truand. Cette image d'un Far West sans foi ni loi est aussi celle longtemps attribuée à l'espace numérique. C'est pourtant bien de régulation, et pour cela de réglementation, dont on va parler aujourd'hui avec vous, Benoît Loutrel, en s'attachant au Digital Services Act. Alors première question, peut-être, pour établir un contexte de ce dont on va parler, d'où vient ce règlement et qu'on va voir pour modifier en profondeur la réglementation et la régulation des plateformes au sein de l'espace numérique, si on se recentre sur les objectifs initiaux en termes de politique publique qui a été poursuivi par le Parlement. Quels étaient-ils ?
Alors, vous avez très bien planté le décor, et pour le poursuivre, il faut se souvenir un peu d'un enchaînement assez long d'événements. Au Royaume-Uni, vous avez le vote du Brexit qui commence à poser des questions, de se dire, mais est-ce que la sincérité du scrutin a été maintenue, ou est-ce qu'il y a eu une manipulation de l'opinion publique via les réseaux sociaux ? Aux États-Unis, il y a l'élection de Donald Trump qui pose des questions aussi à un certain nombre de gens, en disant, mais est-ce qu'on comprend encore comment fonctionnent nos espaces informationnels ? En Europe, il y a une série d'événements qui font que l'année 2017 devient une année charnière. Vous avez trois événements dans trois grands pays, Royaume-Uni, Allemagne, France. Au Royaume-Uni, vous avez un attentat terroriste, un terroriste qui se radicalise en ligne et qui commence à tuer des gens sur le pont de Londres et qui finalement est abattu par les forces de l'ordre en se rapprochant du Parlement. Et Theresa May, qui est Premier ministre à l'époque, en fait, se met à poser la question en disant « Mais on se bat contre le terrorisme, mais est-ce que les grandes plateformes se battent vraiment avec nous ?» et réalise qu'elle a un doute quelque part et qu'elle n'est pas convaincue que le régime d'autorégulation dans lequel on vit à l'époque est suffisant pour garantir l'engagement des plateformes dans un sujet aussi important que la lutte contre la radicalisation en ligne et la lutte contre le terrorisme. Donc le Royaume-Uni est parti dans une démarche qui lui est propre, il a quitté l'Union européenne et elle déclenche un premier acte que je qualifierais de régulation politique où ses équipes travaillent et arrivent à identifier une série de contenus d'apologie du terrorisme et à montrer qu'on les retrouve sur les grands réseaux sociaux à côté de publicités pour des grandes marques. Et elle met ça sur la place publique et évidemment, toutes les grandes marques cessent immédiatement toute publicité sur les grands réseaux sociaux. Or, les grands réseaux sociaux vivent à 99% de recettes publicitaires. Et donc, les grands réseaux sociaux reviennent vers le gouvernement britannique en disant « Que voulez-vous ?» Oui. C'est ce que j'appelle la régulation politique. En France, vous avez deux événements qui vont succéder. Le premier, c'est pendant la campagne électorale, la première élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, trois jours avant le scrutin, vendredi soir, les Macron Leaks apparaissent. On a su ex post que c'était une tentative de manipulation d'ingérence informationnelle russe. Et à ce moment-là, on réalise à quel point l'État est désarmé face là aussi aux grands réseaux sociaux pour dire mais qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces grands réseaux sociaux dans une période de crise comme telle que quand on doit faire face à une ingérence étrangère, qu'est-ce qu'on peut leur demander ? Il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de rédacteur en chef, et on réalise qu'on a un trou entre guillemets dans la raquette, et que là aussi on est dépendant de leur volonté de s'autoréguler. Deuxième événement en France, c'est la crise des Gilets jaunes et son corollaire qui a été une explosion de haine en ligne, ciblant les membres du gouvernement, les membres du Parlement. Et de se dire, mais là encore, comment est-ce qu'on fait face ? Et est-ce qu'on peut se contenter d'avoir un dialogue qui relève de la courtoisie entre les grandes plateformes et les pouvoirs publics ? En Allemagne, en 2017 aussi, on est à quelques mois de l'élection, d'une élection générale, et dans le débat public, brutalement, la chef de file du parti vert allemand est victime de harcèlement en ligne, de manière extrêmement violente, et ça provoque un sursaut de la classe politique, tout parti confondu en Allemagne, qui dit « mais non, on ne peut pas continuer comme ça », et là aussi de se dire « ce régime d'autorégulation est plus satisfaisant ». Et donc dans tous ces pays, vous voyez qu'il y a une prise de conscience dans cette année 2017 en disant « il faut établir un cadre de régulation, on ne peut pas avoir un rapport uniquement sur la base du volontariat, pour être sûr que ces entreprises participent vraiment à la résolution des problèmes ». Et c'est ça qui déclenche la dynamique politique. Elle est d'abord nationale. Donc en France, une loi est votée, la loi de lutte contre la manipulation de l'information, en 2018. En 2019, vous avez le vote de la loi contre la haine en ligne, dite loi Avia, qui sera déclarée globalement inconstitutionnelle. En Allemagne, vous avez là aussi le vote de la loi NetzDG, qui est une loi contre la haine en ligne, qui a lieu en 2017. Et cette dynamique, à la fois, est nécessaire, parce que on construit par la pratique, en se confrontant au problème, une culture de régulation, parce qu'on fait face à des problèmes auxquels on n'a jamais eu à faire face. Comment est-ce qu'on construit des lois pour réguler des acteurs numériques qui sont, entre guillemets, transfrontières? Comment on régule des acteurs qui n'ont pas de contrôle vraiment de l'information, ils n'ont pas de journalistes? Et ces deux lois vont à la fois mettre l'Europe dans une situation un peu de blocage, parce qu'au niveau européen, les gens commencent à s'inquiéter, en disant « mais si la France vote une loi, si l'Allemagne vote une loi », tous les États membres vont suivre et on voit le risque de fractionner le grand marché unique, le marché unique numérique, l'espace Internet. Mais on peut le voir aussi autrement. C'est parce que la France et l'Allemagne se sont lancées qu'on a créé l'espace politique pour qu'un texte européen d'envergure soit lancé. Et en fait, ce texte, c'est le règlement sur les services numériques. C'est un texte qui rouvre la directive e-commerce de 2000, qui était un sujet qui effrayait la Commission européenne précédente en se disant « mais si on ouvre ce texte, est-ce qu'on s'est refermé le texte dans un débat politique tellement il est important ?» Et donc l'initiative française et l'initiative allemande, en fait, créent l'espace politique pour la dynamique. Et réciproquement, les textes qui sont votés permettent à tout le monde d'avancer sur notre courbe d'apprentissage et de comprendre. Et c'est ça aussi qui a permis que le texte européen soit bien meilleur, entre guillemets, parce qu'il a tiré parti des expériences françaises et allemandes.
Et on comprend donc effectivement cet élan vers les modifications qui viennent. Alors, vous évoquez la directive commerce électronique de 2000, justement. En quoi le règlement sur les services numériques remet à jour une part importante de cette directive? Qu'est-ce qui change jusqu'au texte, jusqu'alors en vigueur?
Alors, cette directive est l'un des textes les plus fondateurs de l'économie numérique, parce que c'est là qu'on trouve le régime juridique de la responsabilité limitée des hébergeurs. C'est un régime juridique qui dit qu'un hébergeur, donc typiquement un site qui va abriter des sites web tiers ou qui va servir de support à toute une série numérique, a une responsabilité limitée à raison des contenus hébergés, contrairement au régime de responsabilité pleine et entière, et régime de responsabilité éditoriale des sites web, des médias. Ce régime est structurant, c'est lui qui fonde l'existence de toutes les grandes plateformes. Pensez à Airbnb. Airbnb n'a pas été vérifié que toutes les annonces que vous trouvez sur son site existent vraiment, que les gens sont bien propriétaires. Et donc une plateforme comme Airbnb n'existe que parce qu'il y a ce régime juridique de responsabilité limitée. Le règlement sur les services numériques vient à la fois renforcer ce principe et le compléter. Il le renforce parce que dans la directive de 2000, c'est une directive, donc la responsabilité limitée, on l'a transcrit en droit national, et donc vous en avez 27 variantes. La variante française, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'est le texte qui a sans doute été le plus réformé, il est réformé en moyenne plus d'une fois par an depuis l'an 2000. Et dans chaque pays d'Europe, on a mis une responsabilité limitée un peu différente. Or, à la fois, ces acteurs sont transfrontières. Pensez à un acteur comme un Blablacar, qui est une plateforme numérique. Il opère dans tous les pays d'Europe. Et à chaque fois, il a un régime de responsabilité limitée qui est un peu différent. Et donc, le règlement sur les services numériques vient abroger dans la directive ce régime de responsabilité limitée pour immédiatement le reformuler à l'identique, mais dans un règlement. Et pour dire, dorénavant, il y aura un fondement unique juridique, directement en droit européen, directement applicable, et enlever ce flou qui est en train de se créer sur ce régime juridique.
Oui, parce que rappelons-le, on a quand même donc une distinction, effectivement, le règlement d'application directe par rapport à la directive qui, elle, devait faire l'objet de loi de transposition.
Exactement. Et de plus en plus, on voit dans l'espace numérique qu'il faut le structurer, mais au niveau européen, et que du coup, il faut agir via des règlements et non pas via des directives pour permettre cette unicité du cadre juridique sur un espace numérique.
Et alors, vous prenez spontanément des exemples concrets et puis le mot plateforme revient. Effectivement, à qui s'adresse ce texte? Parce que quand on aborde les hébergeurs, les plateformes s'insèrent au sein des hébergeurs, mais avec une spécificité qu'est la leur. Est-ce que vous pourriez rappeler cette distinction peut-être entre les plateformes et d'autres hébergeurs?
Alors, dans la directive e-commerce, vous avez un régime de responsabilité limitée pour les intermédiaires. Et dans les intermédiaires, vous avez à la fois les tuyaux, les intermédiaires techniques et les hébergeurs. Alors, l'hébergeur, le nom dit, entre guillemets, quelle était l'idée de dire, ben voilà, c'est une infrastructure technique qui va héberger une information, mais qui a une attitude assez passive vis-à-vis de cette information. Or, dans ce régime des hébergeurs sont apparus toutes les très grandes plateformes qui clairement font plus. Et donc le règlement sur les services numériques crée une sous-catégorie dans cette famille des hébergeurs qui sont les plateformes. Alors les plateformes se distinguent en disant ce sont des services qui vont offrir à des usagers de pouvoir rendre à la fois héberger un contenu, mais le rendre accessible à des tiers publiquement. Mmh. Et donc ça reconnaît que le cœur de ce qui fait la plateforme, c'est cette capacité à faire une intermédiation sur une information et à la rendre accessible librement, donc à l'amplifier, et qui en fait quasiment une forme de média algorithmique.
Mmh. Et alors en quoi, pour répondre à cette amplification et à ce rôle très spécifique, en quoi le règlement intervient pour mettre davantage à contribution peut-être les plateformes ?
Alors, donc les plateformes, à partir du moment où on dit qu'elles ont ce pouvoir d'amplification, on voit qu'il y a un besoin de les responsabiliser en leur disant ben, « Oui, vous allez avoir une responsabilité limitée, mais vous allez aussi avoir des obligations de renforcer, alors plutôt des obligations de moyens et pas des obligations de résultats. Mmh. » Ça, c'est la leçon qu'on a retenue de la loi Avia, qui est de dire si on met des obligations de résultats à des acteurs qui n'ont pas les moyens de maîtriser ce qu'on leur demande, on ne trouve pas l'équilibre qui doit être préservé vis-à-vis des libertés publiques. Et donc, pour trouver cet équilibre, il faut leur donner des obligations de moyens. Et globalement, on leur met deux grandes obligations de moyens. L'une qui est de leur dire, vous allez faire une obligation de... un duty of care, pardon, l'anglicisme me vient à l'esprit, une obligation de prendre soin de leurs usagers et une obligation de transparence. Mmh. Parce que globalement, en fait, quand toutes ces plateformes sont apparues, évidemment, elles ont vu très vite que leur environnement était en train de devenir toxique pour leurs usagers, ce qui n'est pas bon pour leurs affaires. Et donc elles ont développé une activité pour prendre soin de leurs usagers, et en anglais on appelle ça le trust and safety, la confiance et la sécurité des usagers. Et donc le règlement vient dire, bah, écoutez, pour vous, ça n'est plus une bonne pratique pour vos affaires, c'est une obligation légale d'avoir cette obligation de soin des usagers, d'en prendre soin et d'en rendre compte, puisque ça devient une obligation légale. Et la deuxième obligation, c'est l'obligation de transparence, parce qu'on a un enjeu de perte de confiance dans l'espace numérique. C'est un espace qui est immatériel, où l'action des plateformes est immatérielle et difficilement difficile à appréhender. Et donc, l'obligation juridique de transparence, c'est une obligation qui permet d'imposer un principe de « dites ce que vous faites et faites ce que vous dites » pour rétablir la confiance et la capacité des pouvoirs publics et de la société en général de dialoguer en confiance avec ces plateformes.
Et ces différentes obligations que vous exprimez ici à destination donc des plateformes, dans quelle mesure elles s'imposent à elles ? Est-ce qu'on a une application uniforme, quelle que soit la plateforme ? Je crois qu'on peut plus parler, on peut pas parler ici de régulation qui serait asymétrique, mais en revanche, on a une certaine marge dans la...
Alors, ça renvoie à une évolution qui est très importante dans le règlement sur les services numériques. En fait, c'est un texte qui est l'héritier à la fois de la culture de la directive e-commerce, qui, comme son nom l'indique, est un texte à vocation économique, qui est très proportionné dans ses effets pour permettre le développement d'activités économiques, et du RGPD, qui est un texte vraiment qui venait d'une culture de protection des droits fondamentaux et qui, quelque part, avait une reposé sur un principe en disant les droits fondamentaux, ça ne se négocie pas. On les applique de manière uniforme pour tout le monde, on les défend. Ce sont les droits fondamentaux. Et le règlement sur les services numériques essaye d'inventer une nouvelle culture qui mélange les deux logiques en disant il va falloir proportionner les exigences qu'on a à la taille des acteurs et qui essaye de dépasser le paradigme du RGPD, où le RGPD, souvent moi j'en parle en disant c'est un régime juridique taille unique, on impose la même règle à la plus grande plateforme et au plus petit commerce, et du coup on transpire un petit peu de savoir est-ce que vraiment on est assez exigeant avec la plus grande plateforme et est-ce que par hasard on n'est pas un peu trop exigeant avec le plus petit commerce. Et donc dans le règlement sur les services numériques, vous avez 5 tailles, et dont une taille XXXL, qui est de dire il y a des très grandes plateformes qui ont plus de 45 millions d'usagers dans l'Union européenne et qui, par leur taille, par le rôle, la place qu'elles ont prise dans la société, sont susceptibles d'induire des risques systémiques dans le fonctionnement de nos sociétés. Et donc là, du coup, vous avez un régime extrêmement renforcé. Mais néanmoins, il y a aussi un renforcement pour toutes les autres plateformes de moindre taille.
Je vous propose de regarder maintenant un peu plus en détail certaines dispositions, certaines peuvent susciter la curiosité. Parmi les dérives qu'on veut contrer et auxquelles s'attaque notamment ce règlement figure l'incitation de la haine et de la violence en ligne. Et certaines mesures spécifiques sont prises pour lutter contre ces risques dits systémiques. Alors, dans quelle mesure on peut lutter contre ces violences qui, effectivement, renvoient à des risques dits systémiques ?
Alors, c'est toute la difficulté. C'est aussi une des leçons qu'on a apprises dans les tâtonnements avec les premières lois nationales qui ont été votées, de savoir comment est-ce qu'on pose le problème pour bien le résoudre. Initialement, l'action publique s'était centrée en disant « mais il faut lutter contre la haine en ligne ». Et en fait, on mélange deux problèmes quand on dit ça. L'un, c'est de dire « il faut lutter contre la haine dans nos sociétés
oui. »,
qui est un sujet beaucoup plus vaste, bien antérieur à la création de l'Internet et qui est inhérent aux sociétés humaines. Et l'autre morceau, il faut garantir que les plateformes font partie de la solution et pas partie du problème.
Oui.
Et du coup, c'est ce qui a été appliqué dans le règlement sur le service numérique qui dit on a une série de problèmes dans nos sociétés. La prolifération, la haine, la prolifération éventuellement de fausses informations, les problèmes de santé publique, des problèmes d'ordre public, de cohésion sociale. Et le règlement me pose que une plateforme, dès lors qu'elle a plus de 45 millions d'usagers, elle joue un rôle trop important dans le fonctionnement de la société pour qu'on puisse ignorer l'effet qu'elle peut avoir sur ces problématiques globales. Et donc c'est ça qui est déroutant quand on lit le règlement. Ce n'est pas un règlement qui pose des règles très précises opposables aux plateformes, c'est un règlement qui pose des règles de gouvernance pour travailler avec les plateformes et qui leur dit « vous allez faire entre guillemets votre examen de conscience » suivant la nature de la plateforme qui peut être très différente puisque le règlement s'applique à la fois à Amazon, Marketplace ou à TikTok, réseau social. Chaque plateforme doit se dire « mais en quoi est-ce qu'elle contribue à amplifier ou à induire des risques systémiques dans le fonctionnement de nos sociétés ?» Il y a une liste ouverte dans le texte qui va depuis la prolifération de contenus illégaux jusqu'à des problèmes de santé publique ou d'ordre public. Et sur cette base, elles doivent se dire, typiquement, prenons l'exemple de la santé publique, on voit que si vous amplifiez trop un certain nombre de vidéos qui renvoient un rapport à l'alimentation, un rapport au corps, vous pouvez amplifier les problèmes d'anorexie ou, à l'opposé, d'obésité dans nos sociétés. Et ça demande aux plateformes de dire, quand vous avez identifié ces risques, vous allez devoir identifier des moyens pour réduire ces risques. Et derrière, vous allez devoir les soumettre à audit, et on va pouvoir en plus organiser l'accès des chercheurs à vos données pour évaluer la pertinence. Donc vous voyez, je viens de décrire un cercle où la plateforme identifie un risque, formule sa réponse, on vérifie que cette réponse est mise en œuvre, et après on évalue sa pertinence. C'est une méthode nouvelle qui est adaptée au monde numérique, qui est un monde qui mute en permanence. Et donc l'idée était de dire, si on grave dans le marbre de la loi une règle spécifique, sous 6 mois elle peut être contournée, et il peut s'avérer en plus qu'elle n'est pas pertinente. Et donc on crée au contraire une dynamique pour les forcer à s'engager et à faire partie de la solution.
Alors là, vous anticipez sur une question que j'avais envie de vous poser après, mais je vais vous la poser maintenant. Du coup, je reprends votre idée d'examen de conscience. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des règles spécifiques s'inscrivent, comme vous l'avez dit, pour les plus grandes plateformes, qu'on a une logique contemporaine de conformité avec ce que vous avez décrit, cette idée d'audit, d'approche par les risques, qui se mettent en place. Mais concrètement, est-ce que compter, comme vous le décrivez, sur l'action des plateformes, on n'est pas ici dans une démarche qui relève un peu de l'utopie? Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à instaurer cette dynamique qui fonctionne bien avec le cercle que vous décrivez?
Alors, c'est un règlement et il est à la croisée de deux écoles de régulation. La régulation en droit souple et la régulation en droit dur. Ce que je viens de vous décrire, c'est une logique de régulation en droit souple. On crée les conditions d'un dialogue politique où les plateformes font leur examen de conscience, analysent et prennent des engagements. Mais il y a aussi l'école en droit dur, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a aussi des régulateurs qui sont mis en place avec des pouvoirs de sanction extrêmement importants qui vont jusqu'à des plafonds d'amende qui s'expriment en pourcentage du chiffre d'affaires mondial de ces entreprises. Donc pour les plus grandes, on arrive assez vite à ce que l'unité de compte, ça soit 1 milliard d'euros. Donc là, quand même, c'est la carotte et le bâton.
D'accord.
Venez dans le dialogue. Oui, c'est flexible. Oui, on peut discuter. Mais vous avez l'obligation de venir. Et donc justement, j'en reviens à la commande politique qui avait été passée par les gouvernements, qui était de dire, oui, on comprend qu'il faut travailler avec ces acteurs, mais on veut être certain qu'ils s'engagent. Et donc vous avez ces deux logiques dans le règlement.
D'accord.
Donc au premier jour, on sera déçus, parce qu'on a des attentes incroyables vis-à-vis de ce texte, et elles vont revenir avec une première formulation des risques systémiques, où globalement, elles vont dire, c'est notre attente, qu'elles sont vertueuses. Mm-hmm. Et elles vont nous expliquer comment elles ont construit leurs règlements communautaires qui ont vocation à essayer de réduire ces risques. Mais pour la première fois, elles vont revenir forcées à discuter. Mmh. Et on va pouvoir débattre avec elles. Et le cas des gens, leur dire, mais non, en fait, vous avez oublié un risque systémique et on sait le documenter, on sait le prouver. Et donc, vous allez reprendre votre copie et recommencer.
Bon. On va revenir dans un instant sur cet aspect de mise en œuvre sur laquelle on a commencé à discuter. Je voulais juste vous poser une question, puisque vous évoquiez tout à l'heure la question du soin porté à certains usagers. Et notamment, je pensais aux mineurs qui sont aussi au centre du projet de loi actuellement en discussion au Parlement. En quoi le texte dont on parle là améliore la protection de certaines catégories d'utilisateurs, peut-être plus que d'autres, et donc notamment les mineurs?
Alors c'est clairement un des objectifs, même si ce n'était pas au cœur du débat politique dans les années 2017, maintenant ça l'est devenu. Et c'est un bon exemple pour illustrer en quoi le texte est à la fois dans une logique de droit dur et dans une logique de droit souple. Logique de droit dur, vous avez un article qui dit, dorénavant, il est interdit de cibler les mineurs pour des publicités. Donc là, il y a une interdiction pure et simple qui est dit, vous n'avez pas le droit sur les plateformes d'avoir un ciblage des mineurs. Et puis globalement, vous avez des articles qui posent un principe de protection des mineurs renforcés, donc qui sont assez principiels, assez généraux, et qui vont être le support d'un travail conjoint des plateformes avec les régulateurs.
On voit bien qu'on a donc une logique à traiter aussi des situations plus précises que précédemment, et on le trouve aussi dans un contexte tout à fait différent, dans l'ajout d'un autre article qui introduit un mécanisme donc différent, mais de réaction aux crises. On est dans un contexte, je crois, cet article a été porté dans le contexte de la guerre en Ukraine, et on a des conséquences qui ont été tirées au vu de la manipulation de l'information qui peut être faite dans ces contextes-là. C'est un autre mécanisme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot sur...
Alors, c'est sans doute l'une des dispositions... les plus exceptionnelles du règlement, qui ont été rajoutées en toute fin de course de la négociation politique entre le Parlement européen et le Conseil des États membres. Comme vous l'avez dit, ça s'est fait sur le contexte de démarrage de la crise en Ukraine, et où brutalement les États membres de l'Union européenne ont réalisé qu'on était encore dans un monde où on pouvait subir des ingérences étrangères massives dans des circonstances de crise comme peuvent l'être une guerre directement aux portes de l'Europe. Et donc c'est un mécanisme d'urgence comme on a dans toutes les législations nationales qui est à caractère d'exception, donc il y a des verrous particuliers pour pouvoir l'invoquer, et qui permet dans ces cas-là d'avoir des demandes hors normes, le cas échéant aux plateformes, pour faire face à une situation de crise qui pourrait être une situation de guerre qui toucherait directement l'Europe, une catastrophe naturelle d'une ampleur inégalée, et où là on pourrait mobiliser entre guillemets les réseaux sociaux dans des circonstances d'exception avec des procédures de contrôle dans ce cas-là pour activer ce mécanisme et dont la durée est limitée aussi.
Alors si on aborde maintenant pour compléter et finir aussi cet échange, le point sur lequel on était arrivé juste avant, la question de la mise en œuvre du texte, on a un pilier important quand même au niveau de la régulation européenne qui a été ajusté par le DSA et qui est fondé sur le principe du pays d'origine. Est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur ce qu'est ce principe et en quoi il a été ajusté ?
Alors, le principe du pays d'origine, c'est un principe qui est fondateur dans le fonctionnement de la dimension économique de l'Europe, qui est de dire une entreprise doit pouvoir être établie dans un État membre et servir l'ensemble du marché européen sans avoir à comprendre toutes les réglementations européennes et on essaye de, avec ce principe de lutter contre la fragmentation des marchés. Donc typiquement, c'est un principe qui veut que historiquement, on dit ben, si vous êtes constructeur automobile installé en France, vous allez respecter toutes les réglementations françaises pour montrer que votre véhicule est un véhicule sûr. Vous n'avez pas besoin d'aller faire homologuer votre véhicule par les autorités de chacun des États membres pour le vendre dans toute l'Europe. Et donc il est fondée sur une réciprocité. Si les Français jugent que les voitures des constructeurs français sont bonnes, elles sont bonnes pour tous les citoyens de l'Union européenne. Pareil pour les constructeurs allemands. Si les autorités allemandes jugent que les véhicules allemands sont de bonne qualité, ils sont de bonne qualité pour toute l'Europe. Quand vous l'appliquez au numérique, évidemment, ça pose une difficulté particulière, c'est que le numérique est immatériel et donc vous n'avez pas d'usine physique que vous pouvez localiser. Et donc ça autorise potentiellement un forum shopping, comme on dit, c'est-à-dire un choix de dire mais où est-ce, quel pays d'origine est-ce qu'on va prendre. Et on a dû observer que quasiment toutes les grandes plateformes se sont localisées en Irlande. Peut-être pas de manière neutre vis-à-vis du régime fiscal que l'Irlande propose par ailleurs à ses entreprises. Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation où le principe du pays d'origine était devenu massivement asymétrique et où l'Irlande était en charge de protéger l'ensemble de l'Union européenne vis-à-vis des très grandes plateformes. Donc ça a créé des doutes, ça a créé sur la capacité des régulateurs irlandais à faire face à autant de responsabilités, des tensions entre les États membres, voire des tensions entre les régulateurs. On a pu le voir dans le cadre du règlement général sur la protection des données. Pendant longtemps, le débat était du coup d'opposer en disant mais on ne veut pas le principe du pays d'origine, on veut le principe du pays de destination. Finalement, les dommages sont dans nos pays, il faut que le pays qui subit les dommages puisse réagir. Alors, le principe du pays de destination, ça s'appelle la négation de la construction européenne, c'est chacun chez soi, fait ce qu'il veut. Et donc le DSA, finalement, a trouvé une porte de sortie extrêmement novatrice et intéressante, qui est de dire on va à la fois garder le principe du pays d'origine, mais pour les plus grandes plateformes, puisqu'elles sont systémiques dans le fonctionnement de l'ensemble de l'Union européenne, ces plus grandes plateformes passent sous le contrôle de la Commission européenne sur le régime de régulation renforcée. Et donc on a une gouvernance qui a un principe du pays d'origine renforcé par la création d'un régulateur européen dans les mains de la Commission européenne pour gérer les plus grandes plateformes et la bascule dans une logique de coopérative, de créer un réseau de régulateurs avec un centre qui va fonctionner dans un modèle nouveau, alors qui n'est pas si nouveau, en fait, si vous y réfléchissez, c'est le modèle de la régulation bancaire, où vous avez un régulateur bancaire européen au centre, autour de la Banque Centrale Européenne, et des régulateurs nationaux, des banques systémiques qui sont soumises à une régulation centrale, et des banques non systémiques qui sont soumises aux États membres. On retrouve un peu cette même logique. Donc c'est dans une intégration européenne plus poussée qu'on a trouvé la solution, une sortie par le haut.
Et là, justement, vous abordez votre rôle. C'est-à-dire en France, le rôle de régulateur, comme vous l'évoquez, est joué par l'ARCOM, à laquelle donc, vous appartenez, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Concrètement, comment cette régulation elle s'organise par rapport à d'autres régulateurs, d'autres instances qui existent? Je pense ici au rôle qu'on donne aussi à la CNIL, dont on parle souvent dans le cadre de nos émissions. En articulation avec la CNIL, quelles sont...
Alors, on a plusieurs plusieurs
dur à schématiser questions. Peut-être, mais en tout cas pour...
D'abord, en tant que régulateur du DSA, de manière intéressante, le texte les appelle des coordinateurs des services numériques. Et ça renvoie au fait que le DSA, Règlement sur les services numériques, est vraiment un texte qui permet de se saisir de tous les problèmes de nos sociétés qui se retrouvent amplifiés sur les réseaux sociaux. Et du coup, le régulateur ne peut pas devenir responsable de tout. L'ARCOM ne va pas devenir responsable de la santé publique. On a toujours une direction générale de la santé. Les plateformes jouent un rôle aussi dans notre capacité à gérer la transition écologique. Mais pourtant, on a un commissariat général au développement durable qui va continuer à jouer son rôle. Et donc, les régulateurs jouent un rôle un peu de facilitateur pour permettre à tous les pans de l'État, à toutes les facettes de nos sociétés, les médias, la société civile, de trouver comment utiliser le règlement sur les services numériques pour justement participer à ce travail de responsabiliser les plateformes. Donc c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que le texte européen prévoit qu'on peut avoir plusieurs autorités pour mettre en œuvre le règlement sur les services numériques. Et il y a certains endroits où typiquement, il y a des sujets où on renforce la règle, elle est encore plus stricte que dans le RGPD. Et donc ça intéresse bien évidemment la CNIL, qui est la gardienne du RGPD en France. Et donc la CNIL va participer comme autorité compétente à la mise en œuvre du règlement sur les services numériques. Et donc on a développé une relation nouvelle avec la CNIL pour, parce qu'elle aura une responsabilité directe pour certains articles qui touchent à la protection de la vie privée dans la mise en œuvre du règlement sur les services numériques.
Alors, si mon esprit un peu vous pousse un peu sur une analyse un peu plus critique de la faisabilité de tout ça, on vous entend, on a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre, mais du point de vue humain et financier, est-ce qu'à votre avis, tout ça, à terme, est suffisant pour espérer mettre en place efficacement ces textes qui donnent, on l'entend, une échelle assez importante en termes de moyens d'action, des acteurs qui sont multiples aussi, mais en termes de moyens humains et financiers en France, pour l'heure, est-ce qu'on est... selon vous, suffisamment armé pour ces évolutions à venir?
C'est une question qu'on s'est posée dans les années 2017, quand l'architecture de ce règlement a été conçue. Et finalement, on a fait la liste de tous les sujets sur lesquels il fallait intervenir. On s'est dit, mais ces plateformes ont une taille incroyable. Et on arrive à la conclusion en disant, mais il va falloir des régulateurs d'une puissance exceptionnelle.
Et oui.
Et je résume en général la conclusion d'une formule un peu à l'emporte-pièce, mais qui dit, et là on s'est dit, ces régulateurs vont parler russe et chinois. C'est-à-dire que quand vous avez créé un régulateur qui est aussi puissant, c'est pas le modèle économique des démocraties. Et donc on s'est repenché sur la copie, on s'est dit, mais comment on peut contourner? Comment est-ce qu'on peut à la fois avoir des régulateurs, une force de régulation qui soit aussi puissante que ces plateformes, mais en respectant nos valeurs démocratiques? Et on est arrivé à ce modèle qui est un modèle, en fait, d'ouverture. C'est un modèle, j'ai encore utilisé un anglicisme, je m'en excuse, mais d'empowerment. Où on dit le but du régulateur, ce n'est pas d'avoir la puissance, lui, absolue, c'est de mettre l'ensemble de la société en capacité de réguler ses entreprises. Et on est arrivé à se dire, mais finalement, donc on a besoin de régulateurs qui ne sont pas énormes, mais qui sont par contre agiles, et qui veulent aussi, vont essayer de faire comme les plateformes, de dire, mais comment est-ce qu'on... On fonctionne à l'échelle. Et donc, pour fonctionner à l'échelle, on s'est dit, mais en fait, plutôt que de vouloir accumuler toutes les compétences à l'intérieur du régulateur, prenons la compétence où elle est. C'est des compétences très pointues, c'est des compétences numériques. Ça se trouve là où il y a des chercheurs. Et en plus, là où il y a des chercheurs, il y a des chercheurs chez les enseignants. Et donc, il y a des jeunes. Et donc, au cœur de ce règlement, vous avez un mécanisme pour permettre à toutes les universités de France, de Navarre et de l'Union européenne de participer à la mise en œuvre du règlement sur les services numériques. Vous avez un article, l'article 40, qui dit que les chercheurs agréés, parce qu'on a quand même en tête qu'il y a eu l'aventure de Cambridge Analytica, vont pouvoir demander à accéder aux données que les plateformes détiennent pour faire des recherches d'intérêt général qui sont cadrées par le règlement et qui sont en fait pour vérifier que le règlement est bien mis en œuvre. Et donc elles vont pouvoir poser des questions en disant, mais voilà, moi je veux accéder à telle donnée parce que je pense qu'il y a un risque systémique qui n'a pas été identifié. Et les régulateurs vont veiller à ce que les chercheurs puissent accéder aux données. Donc le régulateur va se mettre au service du monde de la recherche pour que le monde de la recherche arrive à créer du savoir. Et le savoir, en fait, c'est ça qui va rééquilibrer le pouvoir vis-à-vis des plateformes. Pour beaucoup, ce qu'on subit aujourd'hui, c'est une asymétrie d'information totale. On ne sait pas les observer. Et comme on ne sait pas les observer, on ne sait pas les responsabiliser. Si on a réussi à inverser cette asymétrie de savoir, on a rétabli l'égalité de puissance entre les plateformes et nos sociétés.
L'universitaire que je suis va y songer. Voilà une perspective intéressante, effectivement. Alors, pour finir, parce que le temps après va nous manquer, j'aimerais ouvrir ces discussions sur deux points qu'on a déjà abordés dans des précédentes émissions. Parce que finalement, ce dont on parle, ce texte et l'avenir du DSA va dépendre aussi de l'évolution du monde numérique à réguler. Et on a parlé la fois dernière, je le disais, des IA génératives et des questions nouvelles engendrées par ces évolutions technologiques. Selon vous, quels sont les nouveaux enjeux à anticiper pour la régulation d'un monde numérique nouveau qui serait lié à ce type d'IA? Je pose la question parce que, par exemple, le directeur des affaires publiques de YouTube France révélait en 2022 le rôle important de ces IA pour détecter des vidéos contraires au règlement, donc de la plateforme, et avec pour but de retirer les contenus avant même finalement qu'ils aient pu être vus par des utilisateurs. Comment on combine?
Alors, au cœur de ce monde numérique, vous avez effectivement ce qui caractérise ces plateformes, c'est qu'elles opèrent de la donnée, de l'information à très grande échelle. Et donc, elles sont construites autour d'intelligence artificielle. Pour beaucoup, la révolution de l'intelligence artificielle, elle est devant nous dans les autres secteurs de l'économie. Elle est déjà au cœur de ces plateformes. Et c'est pour ça qu'on a créé ce règlement, justement, pour combattre cette asymétrie d'information, parce qu'on sait qu'elles utilisent l'intelligence artificielle, mais on n'arrive pas à caractériser effectivement aujourd'hui à quelle fin, quels sont les effets de bord qu'elles ne souhaitent pas avoir, mais qu'elles ont de fait. Et c'est pour ça qu'on a organisé cet accès des chercheurs aux données pour avoir ce dialogue et maîtriser. Et puis en plus, vous avez la deuxième lame qui arrive, mais qui va s'appliquer à absolument tout le monde, qui est le règlement sur l'intelligence artificielle, qui est en finalisation actuellement dans le trilogue européen.
Et dans les autres évolutions, on a parlé aussi des métaverses. Est-ce que le DSA est applicable, est adapté à des propos qui auraient pu, par exemple, être tenus dans les métaverses?
Alors, le métaverse, déjà, on en a beaucoup parlé quand une grande entreprise américaine nous a dit que c'était l'avenir du monde.
Depuis, on parle moins.
Elle n'a pas réussi et on nous en parle moins. Mais a priori, le métaverse est une plateforme numérique comme une autre. C'est un espace numérique qui va vous proposer de vous projeter dedans avec un avatar. Bon, quand vous êtes sur un réseau social comme Twitter, c'est un métaverse, si ce n'est que votre avatar ne peut juste s'exprimer avec des tweets d'une certaine longueur, avec des images et de la vidéo. Ça sera potentiellement des espaces numériques plus sophistiqués, mais qui reste le fait que votre avatar voudrait qu'il puisse interagir avec d'autres gens. Ça passe, a priori, le test de définition de la plateforme. Après, on sait aussi, maintenant, on a une tradition de régulation en droit européen qui, d'ailleurs, a accidentellement fait l'admiration du monde entier, parce qu'on est la seule zone du monde qui s'est lancée dans cette aventure, et tout le monde regarde et espère qu'on va réussir. On sait aussi qu'on vient de voter, en fait, le règlement sur les services numériques 1.0. Et donc, un des derniers articles fixe déjà à quelle date on va le réévaluer, et donc fixe à quelle date la version 2.0 va sortir, et s'il faut un petit patch in fine pour s'adapter au métaverse, on s'adaptera au métaverse. Beaucoup de gens souvent lisent le règlement sur les services numériques en disant « mais il n'est pas clair ». Alors ça renvoie, je pense, à deux idées qui sont importantes et qu'il faut bien comprendre. L'une, c'est parfois des professeurs de droit qui disent « mais je connaissais bien la directive e-commerce, elle était claire ». Et là, le règlement sur les services numériques, il n'est pas clair. Je n'ai pas compris ce que c'était que les risques systémiques. Et il y a une différence fondamentale entre la directive e-commerce et le règlement sur les services numériques. La directive e-commerce, il n'y a pas de régulateur. Et donc, c'était un texte dont on voulait décentraliser le respect en disant la norme juridique doit être une clarté absolue parce que derrière, les avocats s'en saisissent, ils vont voir les juridictions, les juges tranchent. Dans le règlement sur les services numériques, on dit non, on veut avoir une plus grande flexibilité, et donc on a voulu construire un règlement avec un régulateur. Et donc il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas claires tant que le régulateur ne s'en est pas saisi, parce qu'effectivement le législateur a veillé à laisser une marge de manœuvre importante au régulateur, justement pour adapter les grands principes à des situations, à des évolutions de l'Internet, et ça a été le moyen pour essayer de garder un règlement qui ne règle pas simplement le problème de l'année précédente, mais qui permette de s'adapter aux problèmes auxquels on va faire face dans un an, dans deux ans, dans trois ans. C'est l'une des raisons de ce flou.
Mais écoutez, moi je vous remercie pour la clarté de vos explications et de l'avoir rendu quand même plus clair dans la compréhension, et j'ai bien noté, on vous réinvitera pour la version 2.0. Merci Benoît Loutrel.
Merci à vous.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café.
Déjeuner en paix, et pourquoi pas surfer sur Internet en paix? Quand vie privée et espace public, géopolitique aussi se rencontrent, ça donne cette chanson de Stéphane Escher qui illustrait la complexité dans laquelle se trouvait le monde en 1991 en pleine guerre du Golfe. Dans le contexte actuel, où d'autres guerres voient donc le jour, ces paroles résonnent avec acuité. Benoît Loutrel, pour terminer cet échange, je voudrais partager avec vous une actualité du 17 novembre dernier et relayée en ces termes sur le site de France Info.
La Commission européenne suspend ses campagnes publicitaires sur le réseau social X. Cette décision survient après l'ouverture de deux enquêtes. L'une vise le réseau social d'Elon Musk et l'autre la Commission, elle-même suspectée d'avoir violé des règles européennes sur les données personnelles. Bruxelles joue la carte de la prudence. La Commission européenne a demandé à ses services de suspendre toute campagne publicitaire sur X, ex-Twitter, en raison de la hausse alarmante de la désinformation et des discours de haine, a annoncé vendredi 17 novembre un porte-parole de l'institution. Il a précisé que cela ne remet pas en cause la présence des services de la Commission sur la plateforme. Cette décision survient après l'ouverture en octobre d'une enquête visant le réseau social d'Elon Musk pour la diffusion présumée de fausses informations, contenus violents et à caractère terroriste, et discours de haine dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas. La procédure, engagée par Bruxelles, s'inscrit dans le cadre de l'application de la nouvelle législation sur les services numériques, imposant des obligations renforcées aux plateformes. La Commission européenne accusée d'avoir violé ses propres règles. Un mois plus tôt, en septembre, une polémique était née après la diffusion d'une campagne sur X par les services de la commissaire européenne aux affaires intérieures pour faire la promotion d'un projet de législation. Accusée d'avoir utilisé les techniques de micro-ciblage en se basant sur les opinions politiques et religieuses des personnes visées, elle était suspectée d'avoir violé des règles européennes sur les données personnelles. Une association autrichienne militant pour la protection de la vie privée, NOYB, a donc porté plainte jeudi contre la Commission européenne auprès du contrôleur européen de la protection des données, au nom d'un internaute néerlandais destinataire d'un des messages des services de l'Union européenne. L'ONG réclame une enquête fouillée et l'imposition d'une amende.
Benoît Loutrel, souhaitez-vous réagir ?
Écoutez, c'est une double information, donc c'est pas facile pour réagir. Il y a à la fois le fait qu'on voit bien qu'il y a une question particulière qui se pose sur l'entreprise X, anciennement Twitter, parce qu'effectivement, la personnalité d'Elon Musk pose des questions et a interrogé. Il y a d'ailleurs un lien très fort entre Elon Musk, Twitter et le règlement sur les services numériques. C'est un règlement, vous savez, personne n'anticipait qu'il serait approuvé dans la présidence française la même année que le règlement sur les marchés numériques. On pensait qu'il y aurait un décalage d'un an. Et tous les commentateurs ont toujours dit qu'il y a deux événements qui ont provoqué une accélération du calendrier. L'un, c'est la guerre en Ukraine, et l'autre, c'est l'annonce d'Elon Musk qui voulait prendre le contrôle du réseau Twitter. Et les négociateurs européens, dans le trilogue, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen, ont jugé qu'en fait, il fallait mieux conclure ce texte. Maintenant, avoir un règlement, même s'il était peut-être imparfait, qu'on aurait pu l'améliorer avec un an de négociation supplémentaire, plutôt que de ne pas avoir de règlement pour faire face à ce type de situation. Une guerre d'un côté et de l'autre côté, le fait qu'une personnalité qu'on peut juger un peu fantasque comme Elon Musk prenne le contrôle d'une entreprise qui joue un rôle aussi important dans le fonctionnement de nos sociétés. Donc c'est ça qui est illustré par une partie de l'information et le fait qu'il y a déjà un rapport de force qui est en train de s'amorcer entre la Commission européenne et l'ensemble des régulateurs, d'une part, et l'entreprise Twitter X d'Elon Musk de l'autre, pour vérifier qu'elle respecte nos règles et nos principes, nos droits fondamentaux qui font la cohésion de l'Union européenne. Et il y a une deuxième information qui est cachée dedans, c'est ça qui est intéressant, qui dit, mais encore une fois, on a un citoyen autrichien bien connu qui a lancé un contentieux contre la Commission européenne en disant, mais à propos, est-ce que vous avez bien utilisé le réseau social quand vous faites des publicités ciblées? Est-ce que tous les ciblages que vous faites sont acceptables ou pas? Et donc c'est Max Schremp qui est encore derrière cette association NOG qui est mentionnée et qui pose la question. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est... Quelles sont les limites qu'on doit avoir quand on fait de la publicité ciblée, quand on est une autorité publique? C'est un bon sujet. Et le règlement sur les services numériques permet d'aller plus loin. L'une des dispositions, ça doit être l'article 39, précise que toutes les grandes plateformes doivent rendre publiques quelles publicités sont faites sur les réseaux sociaux. Qui cible? Qui est ciblé? Sur quels critères? quel est le montant qui est engagé, qui est l'autorité qui l'a fait. Donc moi, je fais l'hypothèse que si cette opération a été lancée, c'est parce que quelqu'un a commencé à exploiter ces bases de données pour poser des questions et pour responsabiliser non seulement les plateformes, mais les gens qui les utilisent. Et c'est une bonne question, je pense, à poser, de se dire, mais pour une autorité publique, quels ciblages sont autorisés ?
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Benoît Loutrel, membre du Collège de l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique, l'ARCOM, pour discuter du règlement sur les services numériques. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léobardo Arongo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.